Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, une émission proposée par Éric Dupri.
Bienvenue à l'écoute de Radio Présence et de Vivante Église. Bonne fête de la Toussaint à tous. En ce premier jour de novembre, nous allons consacrer cette émission aux activités de la chaire Jean Rodin, ce mois-ci à l'Institut catholique de Toulouse. Le 18 novembre, elle organise le grand procès fictif de la justice restaurative. Et le 28 novembre, elle propose une conférence dédiée à l'engagement éthique des prophètes, étude des mouvements éthiques et sociaux du 21e siècle à la lumière de la Bible. On en parle dans quelques instants en compagnie de mes trois invités. Trois invités auxquels je souhaite également la bienvenue. J'ai le plaisir d'accueillir une nouvelle fois Vivante Église Marie-Christine Monnoyer, professeure des universités et ex-titulaire de la chaire Jean Rodin, dont elle est toujours membre. Également présent dans ce studio, Jean-Marie Ferenbach, président des Amis de Radio Présence, qui intervient lors de la conférence du 28 novembre. Et puis nous avons au téléphone Aude Bernard, l'actuelle titulaire de la chaire Jean Rodin. À ce propos, tous nos auditeurs n'étant sans doute pas au fait de ce qu'est la chaire Jean Rodin et de l'action qu'elle mène, il serait bon de faire un petit rappel. Nous allons le faire avec Aude Bernard. Bonjour, vous êtes depuis peu la nouvelle titulaire de la chaire Jean Rodin. Je précise que vous êtes docteur en droit et maître de conférence à la faculté de droit de l'Institut catholique de Toulouse. De manière générale, quelles sont les activités de la chaire Jean Rodin? Qu'est-ce qu'elle propose aux étudiants et au public?
Bonjour à tous, merci beaucoup de me proposer d'intervenir dans votre émission. J'ai en effet l'honneur et le plaisir de succéder au professeur Marie-Christine Monnoyer. C'est une lourde tâche, mais je la remercie d'ailleurs ici de continuer de m'épauler et que nous puissions travailler ensemble. Alors la chaire Rodin, comme la chaire Rodin de Toulouse, comme toutes les autres chaires Jean Rodin de France, développe des projets de recherche dans le domaine de l'éthique sociale, de l'innovation et dans tout ce qui relève d'une manière générale de l'humain dans sa diversité. Ce qui fait la force de la chaire Rodin, c'est son éclectisme. On est de nombreux chercheurs, ou non-chercheurs d'ailleurs, puisque nous ne sommes pas tous universitaires, mais nous provenons tous de formations ou de parcours de vie différents, ce qui nous amène à réfléchir sur des thèmes de façon toujours transverse et multidisciplinaire. Alors, par rapport aux étudiants, puisque c'était aussi votre question, nous avons beaucoup d'activités en faveur des étudiants. Vous mentionniez les deux premières qui inaugurent un petit peu ce début d'année 2024-2025, à savoir le grand procès de la justice restaurative le 18 novembre et la conférence de Jean-Marie Ferenbach le 28 novembre sur l'engagement éthique des prophètes. Ce sont des manifestations qui sont bien sûr ouvertes aux étudiants, mais alors si on vise plus spécifiquement le public des étudiants, nous avons surtout le prix Rodin que nous remettrons fin mars, où les candidatures sont déjà ouvertes, et qui permet aux étudiants, qu'importe leur formation, de proposer des projets solidaires, associatifs, dans lesquels ils s'investissent, qu'ils défendent par le biais d'un dossier qu'ils nous soumettent, ensuite ils sont auditionnés par des membres de la chaire. Et les deux lauréats remportent des prix, donc à savoir 300 et 250 euros pour développer leur association. L'an dernier, c'est M. Julien Germain de l'association Emerga qui a obtenu le premier prix et Mlle Pauline Bocquin qui a lancé le CRAV, c'est le Centre de Recherche et d'Anthropologie des Vocations, qui a reçu le second prix.
Oui, nous les avions d'ailleurs reçus
oui,
à Vivante Église,
fait,
en compagnie de Marie-Christine Monnoyer à l'époque. Les types d'événements que propose la chaire Jean Rodin dans sa programmation, parce qu'il y a une programmation annuelle qu'on peut trouver sur le site internet, il y a des conférences, il y a des journées de séminaires, est-ce qu'il y a d'autres? Alors il y a la remise des prix bien sûr de la chaire, chaque année c'est au printemps, est-ce qu'il y a d'autres choses?
Oui, oui, bien sûr, nous essayons de faire le plus possible d'événements sans que ce soit non plus un rythme trop intense. Trop d'événements tue l'événement. Donc l'idée, c'est vraiment de faire des événements qui sont porteurs et qui sont portés par la plupart des membres de la chaire. Nous avons donc le 18 novembre un premier événement qui durera 2 heures, qui met beaucoup en scène le milieu judiciaire et les étudiants, puisqu'il s'agira d'abord d'une leçon inaugurale sur la protection judiciaire de la jeunesse, qui qui sera réalisé par Madame Sophie Molina, et ensuite un grand procès de la justice restaurative, à l'instar un petit peu des grands procès de la RSE que le professeur Monnoyer a déjà pu conduire. Ce grand procès de la justice restaurative va permettre aux étudiants de s'emparer de ce sujet, sujet qui est très important pour la chaire, à deux raisons. La première raison, c'est parce que la Fondation Rodin a initié il y a 2 ans un thème sur passer de la sanction à la prison et donc une réflexion qui s'était menée justement sur la chaire Rodin à Lyon et à laquelle certains membres de la chaire avaient participé. Avec le professeur Monnoyer, nous avons organisé l'an dernier une journée d'études sur la justice restaurative qui a réuni pratiquement 300 personnes, donc nous étions très heureuses de ce bel accueil qui a été fait et nous avions été surprises de voir que c'était un thème qui intéressait tout un chacun, qui pouvait intéresser les religieux, les philosophes, les linguistes, les étudiants de droit, bien évidemment, les psychologues. Et donc, dans ce mouvement-là, nous avons proposé pour l'année 2024 un grand procès qui permettra aux étudiants, quelle que soit leur faculté, de plaider sous forme de petite plaidoirie de 2 minutes pour défendre un argument en faveur ou contre la justice restaurative. Et donc, j'ai le plaisir de vous annoncer que nous avons des étudiants qui vont participer, qui proviennent des filières de psychologie, droit, LEA, histoire, MGAC. Donc on a vraiment une diversité et c'est vraiment cette diversité-là qui est importante pour la chaire. C'est ce qui nous anime, c'est peut-être ce qui fait notre force et c'est ce que nous allons reproduire le 18 novembre. Le 28 novembre, nous avons la conférence de Jean-Marie Fernbach qui est aussi ouverte à tout public et donc qui est sous forme de conférence donc d'une heure et demie. En janvier 2025, nous avons aussi une autre conférence sur le J'accuse d'Émile Zola. L'idée est d'avoir une lecture, encore une fois, transverse de ce texte avec une maître de conférence en littérature comparée et votre serviteur sur une lecture plus juridique et notamment l'utilisation ou le renvoi à la loi de 1880. Nous organisons enfin, le 13 mars 2025, une journée d'études sur grand âge, spiritualité, innovation. Alors cette journée d'études est très importante puisqu'en fait, elle sera la troisième d'un cycle que nous avons initié en 2022 qui s'intitule « Penser le grand âge, penser la dépendance ». L'idée à chaque journée d'études que nous faisons sur le thème du grand âge est de réfléchir d'une façon différente, nouvelle, avec de nouveaux intervenants sur le grand âge et sur la façon de vivre sa fin de vie. Et donc là, pour l'année 2024-25, cette journée d'études est orientée sur la spiritualité et l'innovation, où nous aurons à cœur de réfléchir sur la spiritualité des personnes qui sont en grand âge, qui sont notamment en EHPAD, et sur les innovations qu'elles peuvent recevoir et comment ça peut améliorer leur fin de vie. Le prix Rodin, bien évidemment, dont je parlais tout à l'heure et que vous avez rappelé, qui sera donc remis le 9 avril 2025 lors de la journée de l'ICT. Et enfin, un gros colloque, le colloque de l'ATHEM, que nous accueillons à l'ICT, qui va être réalisé en partenariat avec la chaire Rodin. L'ATHEM, c'est l'association de théologiennes et de théologiens pour l'étude de la morale. Et ce colloque se déroulera sur 3 jours, fin août, du 27 au 29 août, sur la question de la pensée sociale chrétienne au service de la gouvernance des structures productives ou éducatives. Toutes ces informations sont disponibles sur le site de la chaire Rodin et je reste, ainsi que tous les membres de la chaire, à disposition s'il y avait des questions par courriel. Vous trouverez nos coordonnées sur Internet sans problème.
Et oui, une programmation aussi riche que variée avec des intervenants de qualité. Alors, merci beaucoup, Aude Bernard, pour cette présentation très complète des activités de la chaire Jean Rodin. On en arrive aux 2 prochains événements, donc organisés à l'ICT par la chaire. Le premier ayant donc lieu le lundi 18 novembre de 18h30 à 20h30, salle Léon XIII. Il s'agit de ce grand procès fictif de la justice restaurative. Et première chose qu'il va falloir qu'on explique quand même avant de parler de l'événement lui-même, qu'est-ce qu'on appelle justice restaurative? Je passe la parole à Marie-Christine Monnoyer.
Merci beaucoup et merci à Aude des précisions qu'elle a données sur toute l'activité de notre année. Alors la justice restaurative, c'est une autre forme de justice, c'est-à-dire celle qui ne passe pas devant le juge, celle qui se réalise entre des gens qui ont été accusés. Certains sont déjà condamnés, mais ils peuvent être aussi en attente d'une condamnation ou d'une non-condamnation, et puis des victimes. L'idée, c'est que, contrairement à ce que l'on peut imaginer, Même après un jugement, la victime se sent souvent encore victime et ne se remet pas de l'agression, de ce qu'elle a vécu, soit directement, soit par le fait qu'elle a perdu un membre de sa famille à l'occasion d'un meurtre, par exemple. Donc la victime est quelque part encore malade. L'accusé, ou celui qui a déjà été condamné, ne se rend pas toujours compte des conséquences de son acte. En particulier, quand on dit aujourd'hui « il n'y a pas mort d'homme ». On a mis un pistolet devant une caissière de supermarché, il n'y a pas mort d'homme. Il n'empêche que la caissière de supermarché n'ose plus sortir de chez elle et ne peut plus travailler. Et l'accusé se dit « mais je n'aurais jamais appuyé sur la gâchette ». Et la victime dit « j'ai cru que vous alliez appuyer sur la gâchette ». Cette rencontre entre victime et accusé ou condamné, elle se fait par un intermédiaire non judiciaire. Et au fond, ce qu'elle a de très intéressant, cette justice restaurative, c'est qu'elle permet, dans certains cas, pas toujours, de restaurer la confiance de la victime et de faire prendre la mesure à l'accusé ou au condamné
des conséquences de son acte.
Et ça, c'est très important pour une raison simple. C'est que peut-être il ne recommencera pas quand il sortira. Donc l'idée de la justice restaurative, c'est de lutter contre la récidive. Et bien entendu, d'aider à vivre celui qui a vécu un gros traumatisme.
Alors, ce grand procès fictif, je rappelle l'adjectif à chaque fois, hein, j'insiste dessus, de la justice restaurative, qu'est-ce que c'est ? C'est la justice restaurative elle-même qui va être mise en accusation, en quelque sorte ?
Quelque part, c'est ça. Elle est mise en accusation parce que certains disent « ça ne sert à rien ». D'autres disent « ça coûte cher ». Et pourquoi est-ce qu'il nous faut un autre équipement que l'appareil judiciaire ? Ces trois questions sont des questions intéressantes. Et certains peuvent dire « mais enfin, pour sauver quelques personnes, faut-il consacrer autant de temps, ce qui veut dire autant d'argent ?» Et est-ce que ça veut dire que les juges font mal leur travail ? Qu'ils ne réussissent pas par la condamnation à restaurer la confiance de la victime ou qu'ils ne réussissent pas par leur condamnation à faire prendre conscience à l'accusé de la gravité de son acte. Et donc, on peut très bien dire que ça ne sert à rien. Sauf que ça commence à exister dans un certain nombre de pays. Et sauf que, et ça c'est très intéressant, cela nous fait remonter dans le temps. Où cela nous conduit à être ailleurs dans l'espace. Pourquoi ? Parce que les peuples premiers, comme on les appelle, avaient d'autres formes de justice que la nôtre. Et c'est peut-être grâce à ces peuples premiers que l'idée de la justice restaurative est née.
Qui dit procès, dit jury. Membre du jury, président du jury. Qui dit procès, dit procureur, dit avocat de la défense. Alors, est-ce que tous ces personnages, ces personnalités vont être représentés pour ce grand procès fictif de la justice restaurative ?
Oui, tous. Alors, tous ceux qui sont avocats et procureurs, témoins, seront des étudiants. Le président sera un homme de l'art. Je ne vous dis pas son nom.
Un homme de l'art, ça veut dire quoi, homme de l'art ?
Ça veut dire que c'est un juriste. C'est un juriste très expérimenté. Et ce sont les étudiants qui se sont préparés, qui ont d'ailleurs été préparés par Aude Bernard, qui a l'habitude d'organiser des concours de plaidoirie à la faculté de droit de l'ACATO. Eh bien, ils ont été préparés à prendre la parole pendant quelques minutes, parce qu'on souhaitait que plusieurs puissent être présents, et défendre un élément spécifique de la justice restaurative. Alors, peut-être que certains qui ont, comme des procureurs, se sentent plus ou moins à l'aise dans cette fonction. C'est peut-être plus facile de défendre l'accusé que de la condamner ou du moins d'expliquer combien elle est mauvaise. Mais c'est vrai, et Aude Bernard le disait tout à l'heure, nous avons l'habitude, et on en a réalisé plusieurs, et j'ai été présidente de la dernière, du grand procès de la responsabilité sociale des entreprises, eh bien, on voit que cela apprend beaucoup de choses à tout le monde. Il est intéressant pour les étudiants qui seront dans la salle ou ceux qui voudront nous rejoindre, eh bien, d'entendre les arguments détaillés favorable ou défavorable à la justice restaurative. Au fond, pour nous qui sommes professeurs, c'est aussi une autre façon d'enseigner. Une façon différente, très dynamique, très impliquante pour les étudiants, mais c'est une autre façon d'enseigner.
Donc, les étudiants seront les plaideurs, si j'ai bien compris. Ils vont être combien et puis quel type d'études suivent-ils ?
Alors, comme on le disait un petit peu tout à l'heure, eh bien, nous avons, l'année dernière, dans notre journée sur la justice restaurative, nous avons été très impressionnés. Nous avons eu 50 étudiants qui étaient présents dans la salle alors qu'ils avaient tous cours. Ce qui veut dire que ce jour-là, et à certains moments, ils ont privilégié notre journée de réflexion par rapport aux cours. Évidemment, c'était très très mal.
J'allais vous le dire.
Il y avait 50 étudiants dans la salle, des étudiants de toutes les disciplines. Ce qui fait que quand on a fini l'année universitaire, avec l'ensemble de l'équipe de la chaire Jean Rodin, on s'est dit qu'il faut qu'on fasse une suite, et en particulier qu'on donne la parole à ces étudiants qui se sont glissés dans la salle alors que leur doyen leur avait dit que ce jour-là, ils avaient cours. Et c'est pour ça qu'on a pensé à ce grand procès, et qu'ainsi, on leur donne la parole directement. Ils seront effectivement des juristes, mais il y a beaucoup de psychologues parce que, quelque part, ce sont souvent les acteurs de la justice restaurative. Et puis, il y a des historiens. Et je le dis simplement, nous avions été étonnés qu'il y ait des historiens. Parce que nous n'avions plus pensé à l'histoire de ce passé. Et les historiens, eh bien, ils ont cette histoire dans la tête. Et c'est pour ça qu'ils ont voulu venir. Voilà, ils viennent de toutes ces disciplines-là.
Et le jury, qui vont en être les membres et qui va en être le président, donc ça vous l'avez déjà un peu dit.
Voilà, le jury, ce seront d'autres étudiants, ceux qui participent en tant que tels, mais sans prendre la parole efficacement comme procureur ou comme avocat.
Ils auront quand même à se prononcer. Hein.
Voilà, ils auront à se prononcer. C'est pour ça qu'on a pris un grand amphithéâtre.
Oui, parce que vous allez être très nombreux. À la fin, il va y avoir une délibération, j'imagine.
Absolument.
Et un jugement va être rendu.
Et un jugement sera rendu. Et il sera annoncé haut et fort.
Est-ce que c'est ouvert au public en accès complètement libre, ce
oui.
procès fictif ?
Oui, c'est complètement libre. Donc, vous pouvez vous pointer ce jour-là à 18h.
Au débeauté, comme ça.
Au débeauté. Soyez gentils, envoyez-nous un petit mail.
Un petit peu prévenir avant, c'est
voilà.
mieux.
Hein. Envoyez-nous un petit mail pour que
la salle Léon XIII peut accueillir combien de personnes ?
Un peu plus de 130 personnes.
Oui. Et est-ce que ça va être filmé ou enregistré,
alors,
diffusé sur les réseaux sociaux peut-être ?
Alors, filmé, non. En fait, pour tout vous dire, on n'a pas tout à fait les moyens de faire un film. Hein. Et en plus, en distanciel, c'est aussi un peu compliqué. Donc, il vaut mieux être dans la salle. On va prendre beaucoup d'images, on va prendre beaucoup de notes, on va enregistrer ce qui est dit. Mais ça, c'est facile. Et après, on en fera quelque chose sur les réseaux sociaux ou sans doute, avec des interviews, on en fera une capsule qui sera sur
le site internet.
Le site internet, absolument.
Voilà, donc il y aura une communication,
une espèce de
compte-rendu du procès ensuite
absolument.
Qui passera sur les réseaux sociaux et donc sur le site internet de la chaire Jean Rodin. Voilà donc pour ce grand procès fictif de la justice restaurative qui a lieu, je le rappelle, le lundi 18 novembre de 18h30 à 20h30, salle Léon XIII à l'Institut catholique de Toulouse. Avant de poursuivre, nous allons faire l'habituelle pause en musique dans cette émission. En cette année où nous commémorons le centenaire de la mort de Gabriel Fauré, je vous propose d'écouter son très beau cantique de Jean Racine dans une version enregistrée par la maîtrise de Toulouse, accompagnée à l'orgue par Michel Bouvard.
présence. Vivante Église, Éric Dupri.
Nous sommes de retour à l'antenne et je suis toujours en compagnie de Marie-Christine Monnoyer, professeure des universités, membre de la chaire Jean Rodin, et de Jean-Marie Ferenbach, président des Amis de Radio Présence, avec qui nous allons évoquer maintenant la conférence « L'engagement éthique des prophètes, études des mouvements éthiques et sociaux du XXIe siècle à la lumière de la Bible ». Elle a lieu le jeudi 28 novembre de 12h30 à 14h à l'Institut catholique de Toulouse, à l'amphithéâtre René de Noroy. Alors, on pourra la suivre en présentiel ou en distanciel, il y aura un lien Zoom. Hein. Et Jean-Marie et Ferenbach, vous allez intervenir lors de cette conférence, vous allez la mener. Quand vous parlez de mouvements éthiques et sociaux du XXIe siècle, desquels parle-t-on ?
Je pense qu'on peut, nous ici, s'intéresser particulièrement à ce qui a été identifié peu à peu comme la doctrine sociale de l'Église, qui naît en fait fin du XIXe siècle avec l'encyclique de Léon XIII, Rerum Novarum, et qui ensuite se développe peu à peu sous l'impulsion des papes successifs. Et qui constitue un ensemble assez remarquable, puisque quand on s'y intéresse un petit peu, on s'aperçoit que c'est presque un guide de gouvernance pour la société. Voilà un petit peu ce dont on peut parler. Et ce qui est étonnant, c'est qu'on en trouve des sources, en fait, dans les textes bibliques.
D'où le titre de cette conférence. Alors, engagement éthique des prophètes. Qu'est-ce qu'on appelle l'engagement éthique des prophètes ? Et puis, de quel prophète parle-t-on ?
Alors, engagement. Pourquoi engagement ? Parce que nous ne sommes pas du tout dans une forme d'enseignement. On peut imaginer qu'on est dans les textes bibliques avec soit des grandes histoires fondatrices du peuple hébreu, soit au contraire dans des récits historiques plus ou moins aménagés et retouchés pour faire un tout qui paraît cohérent, etc., soit même simplement dans les enseignements évangéliques, hein, qui sont des enseignements ou quelquefois des actes. Bon, mais on n'est pas tout à fait dans la même perspective qu'un engagement où la personne se met en situation d'intervenir personnellement et de se manifester, avec une certaine virulence d'ailleurs, pour protester contre la situation sociale qu'elle considère comme insupportable. Et ces prophètes qui veulent absolument s'exprimer au nom de Dieu s'engagent vraiment en tant que personnes dans le contexte de leur époque. On a retrouvé des éléments historiques qui permettent de bien comprendre pourquoi ils s'engagent de telle façon plutôt que de telle autre. Et on est vraiment dans un mouvement qui va durer deux siècles, 8e ou 6e siècle, et où il y a continuité dans la façon dont ces personnes se positionnent dans la société de façon publique, connue, identifiable, ce qui d'ailleurs souvent leur attire beaucoup d'ennuis parce qu'évidemment ils dérangent. Ils dérangent en étant comme les avertisseurs aujourd'hui, hein, qu'on voit aussi.
Les lanceurs d'alerte, vous voulez dire.
Les lanceurs d'alerte qui auront déjà des ennuis. Hein. On a donc un mouvement assez extraordinaire, hein, dont on retrouve aussi des traces dans les textes législatifs bibliques. On ne sait pas d'ailleurs très très bien qui a influencé l'autre. Et aujourd'hui, on pense plutôt que ce sont les prophètes qui sont à l'origine de certains des articles de ces textes législatifs. C'est dire l'importance qu'ils auraient eue pour la société d'Israël. Mais ce qui est impressionnant aussi, c'est de noter qu'à la même époque, hein, entre le 8e et le 6e siècle, on n'a pas beaucoup de soucis pour la personne humaine dans les grands empires qui sont à côté. Hein, pensez que c'est ce tout petit peuple d'Israël qui a initié finalement ce mouvement en faveur de la personne humaine, de sa dignité. C'est assez impressionnant dans un ensemble de l'époque, hein, qui n'en est pas du tout capable. On peut vraiment penser qu'il y a chez ces personnes une mystique qui leur permet d'avoir une intuition et peut-être même une révélation.
Ces prophètes, ceux auxquels en tout cas vous allez vous référer, qui sont-ils ? On peut peut-être donner quelques noms.
Oui, alors tous les prophètes n'ont pas développé de tels engagements. Tout au moins, on ne le trouve pas dans leur texte, hein, le texte qu'on leur attribue. Mais parmi les 15 livres qu'on qualifie de prophétiques, 15 ouvrages, on peut identifier 7 auteurs qui se sont intéressés plus ou moins largement à ce thème de l'éthique et du social. Hein. On trouve Amos et Osée dès le 8e siècle. Amos est vraiment le premier à s'engager. Il s'engage de façon très forte, et je dirais avec un volume pas négligeable dans son livre. Amos et Osée au 8e siècle. Michée et Isaïe à la charnière des 8e et 7e siècles. Et puis Jérémie qui a vécu la prise de Jérusalem en 587 par les Babyloniens, mais qui n'est pas parti en exil. Et puis aussi Ézéchiel, qui a vécu l'exil à Babylone. Hein. Donc il y a quand même une très longue période, avec des contextes qui ne sont pas du tout les mêmes. Et puis il y a encore celui qu'on appelle le troisième Isaïe, au VIe siècle, donc au retour d'exil, à qui on attribue les chapitres 55 à 66 du livre d'Isaïe, lequel livre, en fait, couvre un siècle et demi d'histoire. Donc il est identifié aujourd'hui comme étant l'œuvre de trois auteurs successifs, dont le grand Isaïe pour le premier. Ces livres sont associés d'ailleurs à la période dite de la royauté, comme si, après la royauté, les questions n'étaient plus les mêmes. Mais en fait, ces livres sont enregistrés, ils sont écrits, ils font partie à ce moment-là du texte biblique hébraïque, et ils vont y rester, et ils occupent une place importante, c'est plus de 25% du volume écrit dans le Premier Testament.
En quoi l'engagement éthique de ces prophètes de l'Ancien Testament, qui vivaient il y a 2600, 2700, 2800 ans, apporte-t-il un éclairage précieux pour étudier les mouvements éthiques et sociaux de notre temps ?
Je crois que ce qui est intéressant, c'est de constater d'abord que la société que dénoncent ces prophètes, elle ressemble bigrement à la nôtre, ou la nôtre ressemble bigrement à la leur. C'est presque traumatisant, si vous voulez. Hein.
Pour un progressiste, oui, ça doit l'être.
Oui, oui. On y voit passer les dénonciations des inégalités sociales excessives. On y voit l'exploitation de l'un par l'autre. Alors à l'époque, ça peut aller jusqu'à la vente des esclaves. Des esclaves qui sont souvent des juifs, des hébreux, qui se sont faits esclaves parce qu'ils avaient fait faillite. Alors, la Bible acceptait couramment qu'on puisse se faire esclave pour payer ses dettes, mais au bout de 7 ans, on devait être libéré. Bon, et puis là, on en voit qu'ils sont expédiés vers la Grèce grâce à l'aide des Phéniciens qui assurent le transport. Donc, vous voyez des situations qui sont quand même, aujourd'hui encore, un peu choquantes pour nous, mais on n'est pas tellement loin de ce qui peut se faire quelquefois. Bref, mais surtout les non-respects de la vérité, de la loi, les non-respects de l'autre, et puis un mépris pour la personne qui semble absolument intolérable pour les prophètes. Hein. Les prophètes qui dégagent vraiment la notion de dignité de la personne. On a donc vraiment une similitude avec notre société d'aujourd'hui qui est assez impressionnante. Hein. Alors bien sûr, c'est écrit dans un langage qu'il faut décrypter. C'est là un petit peu la difficulté peut-être pour le commun des mortels, mais pour ceux qui ont travaillé un petit peu ces textes, et à partir des commentaires que font certains exégètes, on est extrêmement impressionné de la similitude des situations.
Donc ça veut dire que la Bible et les prophètes bibliques, en tout cas selon vous, restent des grilles de compréhension toujours valables pour étudier les évolutions de la société actuelle, les mécanismes à l'œuvre, ceux qui font fonctionner plus ou moins bien, peut-être plus ou moins mal d'ailleurs, notre société.
Oui, oui, et aujourd'hui où on constate qu'on n'a plus tellement de références sur des notions comme une notion de bien ou une notion de mal, on peut se poser la question d'aller rechercher dans les textes bibliques des sources qui méritent l'attention. Je ne veux pas dire que les prophètes ont réussi. Hein. Si nous avons des livres des prophètes qui sont aussi volumineux, c'est sans doute parce que la mémoire d'Israël a voulu garder le souvenir que les prophètes n'avaient pas été écoutés et qu'ils avaient donc subi des châtiments, la destruction d'abord de Samarie et puis ensuite d'Israël, imputable sans doute au péché du peuple hébreu, hein, à son insuffisance notamment par rapport à ses exigences de l'Alliance qui transparaissent dans le message prophétique. Mais on ne peut que constater que la mémoire d'Israël conserve très fortement un message éthique et sociale qui paraît fondamentale et qu'on retrouve aussi dans les textes législatifs des livres bibliques.
Et qui reste d'actualité, qui reste d'une certaine manière une idée neuve.
Oui, cette idée est toujours neuve et c'est assez impressionnant de constater qu'on a encore beaucoup à faire et peut-être qu'on ne réussira jamais, mais qu'en tout cas, la porte est ouverte.
Pour ça, tout à l'heure, je chicanais un petit peu les progressistes, je me moquais un petit peu, mais est-ce que la notion de progrès moral a du sens pour vos progrès techniques, évidemment, ça on peut le constater assez facilement, mais est-ce que la notion de progrès moral a du sens?
Alors, il semble que les philosophes ont continué à produire, faisant des recommandations diverses et variées, mais mon impression est tout de même que la vie concrète et quotidienne n'a rien d'exemplaire. Et on peut se chercher des références. Là, j'ai sous les yeux un ouvrage qui a 2 ans seulement, hein, qui est donc tout récent, rédigé par 2 exégètes, Olivier Artus à Lyon et Sophie Ramon qui travaille avec lui, et qui s'intitule « Penser les défis contemporains avec la Bible hébraïque ». Et il s'efforce de reconstruire une éthique du bien et du mal à partir des textes prophétiques tout particulièrement. Hein. Bon, ce n'est pas un ouvrage exégète au niveau d'exégèse, au niveau du contenu, c'est un ouvrage de synthèse, de très bonne vulgarisation, mais c'est un ouvrage qui montre bien à quel point on peut s'interroger sur ce que peut nous apporter le texte biblique en matière de vie sociale, aujourd'hui.
Cette conférence, l'engagement éthique des prophètes, à qui s'adresse-t-elle en priorité? Est-ce que vous visez un public bien précis?
Je pense que non. Je pense qu'on le fait comme pour d'autres activités de la Charge Jean-Rodin. On essaie d'ouvrir le plus largement possible. C'était l'intention d'Aude quand elle m'a proposé de faire cette conférence. Donc moi, je m'attends à avoir un auditoire extrêmement vaste, extrêmement varié, pardon. Et le contenu de l'intervention sera en fait une certaine vulgarisation du message prophétique à partir de 3 grands exemples qui sont les plus significatifs, celui du prophète Amos, celui du prophète Jérémie et celui du 3e Isaïe. Et on pourra constater que les enseignements évangéliques se recoupent parfaitement avec ces textes et en particulier avec celui du 3e Isaïe.
A priori, ça intéresse d'abord plutôt des étudiants et des chercheurs en sciences sociales?
Il me semble que c'est d'abord un cercle que ça peut toucher de façon, je dirais, nouvelle, puisque c'est pas très connu hein, que les prophètes ont travaillé cette question.
Non, c'est le moins qu'on puisse dire.
Ce n'est pas, ça n'est pas dans la culture de tout le monde. Il se trouve que je m'y étais intéressé personnellement pour des raisons diverses et que j'avais été extrêmement surpris de découvrir que personne n'avait écrit de quelque chose de synthétique sur le sujet à l'époque.
Marie-Christine Monnoyer.
Oui, je pense que ça intéresse un public très diversifié. Bien sûr, nous sommes à la Cato, et donc cela veut dire que nous nous adressons facilement aux étudiants de la Cato, aux enseignants de la Cato, et de toutes les facs, de la fac de théologie à la fac d'histoire, en passant par les juristes, etc. Donc on s'intéresse, on propose cela à la Cato, à tous ceux qui fréquentent très régulièrement la Cato. Mais la Cato, elle a aussi les amis de la Cato, et à mon avis, peuvent être tout à fait intéressés par ce sujet. Et puis, il y a aussi, et cela leur a été signalé, ceux qui suivent les semaines sociales de Toulouse et qui cherchent à enrichir leur connaissance, la diversité de leur regard et de leurs ressources vers des sujets qui sont si rarement traités dans d'autres lieux. Il me semble que déjà, ce sont des publics qui ont été informés et qui peuvent être intéressés par un tel sujet.
Mais je me disais que ça pouvait aussi intéresser des dirigeants d'entreprise, des syndicalistes,
absolument,
des consultants ressources humaines, des directeurs de ressources humaines.
Voilà, c'est un peu pour ça qu'on vous a demandé de participer à cette émission. Pour élargir notre public, c'est pour ça que nous avons demandé au diocèse de le mettre sur l'agenda du diocèse et que nous avons lancé un certain nombre d'informations tous azimuts. Parce qu'au fond, comme le disait Jean-Marie Fehrenbach il y a quelques minutes, nous sommes dans une période dans laquelle on se rend compte que face aux différents problèmes sociaux auxquels nous sommes confrontés, nous cherchons des réponses. Et dans l'une des émissions que vous avez animées la semaine dernière, me semble-t-il, la mêlée de l'info, on évoquait par exemple le problème des retraites. Et ce qui m'avait frappé dans cette émission, c'est qu'au fond, certaines des prises de parole disaient « il faut taxer ceci, il faut taxer cela ». Bon, mais ce n'est pas ça la solution. La solution, c'est de réfléchir à ce que veut dire le fait que nous vivons longtemps. Et que dans ces conditions, il faut penser la vie depuis la formation jusqu'au décès en se disant, eh bien, il y a une partie du temps où on n'est plus capable de travailler. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel rôle on donne à ces personnes-là? Et c'est ce type de réflexion qu'il faut lancer et il nous faut des outils pour la lancer. Ce qu'apportent les prophètes, ce qu'apporte la doctrine sociale de l'Église, ce sont des outils pour réfléchir sur le long terme. La chaire Jean-Rodin, en organisant cette conférence, elle essaye d'apporter des outils pour le long terme.
Il y a des questions-réponses avec le public à la fin de chaque conférence, dont celle-ci.
Absolument.
Voilà, donc les gens pourront intervenir.
Absolument.
à l'issue de la conférence. Juste un petit mot avant de terminer l'émission sur celle qui suivra, parce que ça m'intéresse beaucoup, donc celle du 13 janvier, les 127 ans de J'accuse d'Émile Zola. En quoi va consister donc cet événement ?
Alors c'est un événement qui est très intéressant, qui a été vraiment celui-là complètement lancé par Aude Bernard. C'est l'un des tout premiers de sa nouvelle fonction, parce que ce texte-là, vous savez que c'est un texte sur l'engagement. Lorsque Zola ose écrire ce texte, il s'engage sur 5 colonnes à la une. On a tous en tête le fameux placard l'aurore. Il s'engage dans une France qui, à l'époque, est complètement divisée sur Dreyfusard et anti-Dreyfusard. Cette question de l'engagement, pour la chaire Jean Rodin, c'est fondamental. Nous sommes des chercheurs et des professeurs. C'est-à-dire que nous nous engageons dans nos recherches, mais nous souhaitons que nos étudiants s'engagent dans leur vie. Et un texte comme celui-là, ce texte de Zola, c'était la prise de conscience du rôle d'un homme par rapport à une situation sociale catastrophique. Vous voyez, on en revient à cette position de la chaire Jean Rodin vis-à-vis de l'engagement social, vis-à-vis des situations qui sont extrêmement graves. On est donc ancré dans le présent, mais aussi ancré dans le passé pour sortir du passé ce qui peut nous apporter. Alors en ayant deux intervenantes, Aude qui est juriste et notre amie qui est
Marie-Cécile Cadard.
Marie-Cécile qui est une spécialiste de littérature et de littérature comparée, eh bien elles ont le regard de celle qui a l'habitude d'étudier des textes, parce que ce texte, il est absolument magnifique. Et Aude, avec son regard de juriste, l'analyse évidemment un petit peu différemment, mais l'ancre dans la situation de l'époque. Nous espérons avoir beaucoup d'étudiants dans la salle ce jour-là, parce que pour nous, l'engagement de la jeunesse, quel qu'il soit, qu'il s'agisse du climat, qu'il s'agisse de la politique, qu'il s'agisse de la vie sociale, au fond, c'est ce que nous voulons transmettre.
Voilà. Je suis en ligne.
Allez-y, Aude Bernard, exprimez-vous. Allez-y, puisque c'est vous qui allez mener donc, cette lecture croisée entre la littérature et le droit. C'est le sous-titre hein, de je ne sais pas si vous appelez sa conférence d'ailleurs, discussion avec Marie-Cécile Cadars.
Voilà, c'est en effet une discussion en espérant que ce soit un prolégomène, un colloque d'une envergure peut-être nationale pour les 130 ans de la publication de l'Aurore, donc dans 3 ans.
Encore 2028.
En 2028. Là, en attendant, l'idée, c'est en effet de faire cette discussion. Marie-Cécile Cadars, qui est donc spécialisée en plus sur Émile Zola, puisque c'était le centre de sa thèse, va nous donner une lecture peut-être psychologique de l'auteur au travers de ce texte, dans quelle mesure il se dévoile, quelle est justement ce que disait le professeur Monnoyer, la portée de son engagement. Quant à moi, je reviendrai sur la loi de 1881, qui est la fameuse loi sur la liberté de la presse, que chacun connaît, où en fait, on a, avec ce texte d'Émile Zola, on fait rentrer le débat public au sein des familles. C'est peut-être la première fois que la France tout entière s'empare d'une position pour ou contre, et que ça réfléchit, que chacun prend position et que chacun est amené dans le débat qui initialement est assez militaire puis judiciaire. Donc l'idée va être vraiment d'avoir une approche croisée, dynamique. C'est une discussion qui durera une heure avec peut-être 10-15 minutes pour chacune d'entre nous pour présenter un petit peu le point de vue en littérature comparée et d'un point de vue du droit sur le texte de J'accuse. Et ensuite, nous allons travailler pendant un quart d'heure ensemble, Marie-Cécile Cadars et moi-même, sur ce que le texte a apporté par rapport à la notion de l'engagement au regard de ce que nous pouvons vivre en 2024. Et Dieu sait combien il y a de choses à dire sur la question de la presse à l'heure aujourd'hui. Et ensuite, nous aurons un temps d'échange avec la salle. Donc là, on est vraiment dans une conférence qui est ouverte à tous.
Et c'est donc le 13 janvier 2025 à l'amphithéâtre E101, les 127 ans du J'accuse d'Émile Zola. Eh bien, nous devons conclure maintenant cette émission. Merci beaucoup à tous les trois d'en avoir été les invités. Je rappelle que la chaire Jean Rodin propose 2 événements à l'Institut catholique ce mois-ci. D'abord le lundi 18 novembre de 18h30 à 20h30 à la salle Léon XIII, le grand procès fictif de la justice restaurative. Et puis le jeudi 28 novembre de 12h30 à 14h. heures à l'amphithéâtre René de Noroy. Il y a la conférence dédiée à l'engagement éthique des prophètes, étude des mouvements éthiques et sociaux du 21e siècle à la lumière de la Bible, animée par Jean-Marie Ferenbach. Cette émission était animée par Éric Dupré, à la technique Christophe Aubry. Très bonne journée à tous, à l'écoute de nos programmes. À la semaine prochaine.